Il y a quelques années, lorsque nous vivions en Californie, il y avait des feux dans la région. Entre nous, dans l'église, nous nous sommes demandé ce que nous ferions si nous avions à évacuer nos maisons rapidement. Qu'est-ce qu'on apporterait avec nous? Par exemple, si vous aviez 5 minutes pour quitter votre maison, quelles sont les choses les plus précieuses que vous apporteriez avec vous? Qu'est-ce que vous feriez? Vous savez, parfois, les gens de Dieu font face à des calamités comme un feu ou comme un cambriolage ou autre chose. J'espère que vous n'avez pas expérimenté ça, mais possiblement ça a été le cas. Il y a plusieurs années, quand j'étais tout petit, nous vivions en Géorgie et à un moment donné, notre maison a été cambriolée et nous sommes revenus à la maison après l'assemblée de sabbat ou un jour de fête. Je ne me rappelle pas, la lumière était allumée. La fenêtre de la cuisine avait été brisée, les rideaux flottaient au vent, le chien était un peu confus, le malfaiteur avait brisé une fenêtre, avait sauté dans la cuisine, et pour ajouter l'injure à l'insulte, il avait mis de la saleté plein le plancher. Ça nous donne symboliquement une sensation de violation de domicile, et c'est ça aussi. Ce n'est pas une expérience agréable, absolument pas. Mon père était un chasseur. Il avait plusieurs fusils de chasse qui avaient été volés à ce moment-là. Quand je vois l'événement à partir de ma perspective d'un enfant de 4-5 ans, je me rappelle distinctement quand nous sommes entrés dans la maison, j'ai couru à ma chambre pour voir si mon fusil jouet n'avait pas été volé. Et ce n'était pas le cas. J'étais tellement content, je me rappelle. J'étais reconnaissant pour ça et j'avais remercié Dieu pour ça, que mon jouet n'avait pas été volé. Heureusement, la plupart d'entre nous n'avons pas expérimenté ça, la perte de nos possessions et de nos biens. Mais lorsqu'on regarde l'avenir, lorsqu'on regarde la prophétie biblique, nous voyons que très bientôt, il y aura un temps où nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous allons faire face à certaines choses précises. Notre société sera descendue très bas dans le chaos et en tant que membre de l'Église, nous devrons être prêts à quitter tout ce que nous avons. Je parle ici, bien sûr, du fait d'aller au lieu de sécurité. On n'en parle pas souvent. Ce n'est pas le point central de chaque sermon, bien sûr. Et ce n'est pas une chose dont on discute régulièrement, mais vous savez, de temps en temps, nous devons le faire parce que ça fait partie de la Bible, ça fait partie des Écritures, et c'est un réconfort pour nous lorsque nous regardons l'avenir. Nous vivons au temps de la fin, et ça va se produire, ça s'en vient. Aujourd'hui, dans le sermon, nous allons regarder le lieu de sécurité, nous allons en parler. Le titre de mon sermon aujourd'hui, c'est « La foi » et le lieu de sécurité. La foi est le lieu de sécurité. Il faudra de la foi pour s'y rendre. Nous savons qu'il y aura des événements précis qui vont arriver dans l'avenir tout proche. Actuellement, on voit que la bête émerge en Europe. Nos nations vont être apportées en esclavage. Nous le savons, c'est écrit. Notre système économique s'effondre, notre prestige est en train de tomber et il y aura encore d'autres changements majeurs qui vont se produire sous peu. Ça a été le cas d'ailleurs au cours de la dernière année. Nous voyons par les prophéties qu'à un certain point, les nations d'Israël vont entrer dans le temps d'angoisse de Jacob. Allez à Jérémie chapitre 30, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 30. Ici, ça décrit le temps de la fin et ce qui va arriver aux descendants modernes des nations d'Israël. Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, l'Australie. Les descendants modernes des nations d'Israël. Jérémie 30 et le verset 4. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-tu tous les hommes les mains sur les reins comme une femme en travail. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ça parle ici de la plus grande détresse de toute l'histoire de l'humanité. Ça parle d'une période de temps extrêmement difficile pour notre génération. Et ça s'en vient, parce que nous sommes au temps de la fin. Nous comprenons également que Dieu nous a donné un réconfort extraordinaire, parce qu'il va donner à ses fidèles d'être épargnés des choses terribles qui viennent. Et c'est une bénédiction extraordinaire, c'est un grand encouragement. Nous allons l'apprécier de plus en plus alors que les événements vont se précipiter. Allons à Luc, s'il vous plaît, où le Christ a parlé justement de ces événements-là. Luc, chapitre 21 et le verset 20. Ce sont les paroles du Christ. Le Christ dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les villes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » Ce sont les paroles mêmes du Christ lorsqu'il parlait du temps de difficulté qui approche. Ça s'est réalisé une première fois au premier siècle, lorsque les frères de l'Église ont dû fuir Jérusalem. Le commentaire biblique d'Adam Clark décrit ce qui s'est produit au moment où le peuple de Dieu a fui Jérusalem. Je cite, « Cet avertissement de fuir fut suivi avec sagesse par les chrétiens qui s'en sont souvenus. Eusèbe et Épiphane disent qu'à ce moment précis, après que Cestius Gallus ait cessé ou levé le siège, et alors que Vespasien s'approchait avec son armée, tous ceux qui croyaient au Christ quittèrent Jérusalem et s'enfuirent à Pella et à d'autres endroits au-delà du Jourdain, de sorte qu'ils ont tous échappé à l'anéantissement du pays. Aucun d'eux ne périt. » Ça s'est passé au premier siècle. Vous connaissez l'histoire, les armées romaines ont entouré Jérusalem et de façon surprenante, ils se sont retirés un peu et à ce moment-là, nos frères et sœurs qui se sont rappelés les avertissements du Christ ont agi et ont fui sans délai, sans attendre. Ils ont abandonné leur maison et ils s'en sont allés à Pella et dans d'autres endroits, mais ça prenait de la foi. Il fallait faire confiance au Christ et appliquer l'avertissement qu'il leur avait donné. Et cet avertissement s'applique à nous aussi. Frères et sœurs, est-ce que nous aurons à notre époque la foi nécessaire pour agir selon les paroles précises du Christ? C'est pour nous, ces avertissements-là. Est-ce que nous marchons actuellement avec foi? Il y aura une réalisation de cet avertissement au temps de la fin. Matthieu, chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 24 et le verset 13. Il y aura un deuxième accomplissement de cela. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est le Christ qui parle, sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. On sait qu'il s'agit du temps de la fin parce qu'il parle de l'abomination de la désolation qui sera établie à nouveau. Voyez-vous, ce sont des choses qui vont se produire une deuxième fois. Ça s'est produit en l'an 70 de notre ère, mais ça va se réaliser à une future époque qui est juste devant nous. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Alors, c'est quelque chose qui doit se produire dans le futur. Les serviteurs de Dieu devront fuir à un lieu de sécurité. On est d'accord avec ça, on dit « oui, je comprends ce qui est écrit, je comprends ce qui s'en vient, mais est-ce que c'est réel pour nous? » Vous savez, autour de nous, tout semble tellement permanent, tellement stable dans un certain sens. Même si l'économie est en difficulté actuellement, même si certains sont sans emploi, même si plusieurs perdent des emplois ou des heures de travail, c'est une épreuve, bien sûr, et nous le comprenons. Mais vous savez, nous avons encore de la nourriture sur nos tables pour le moment. La vie continue, pour ainsi dire, comme auparavant, pour la plupart d'entre nous. Nos vies semblent assez normales. On se lève le matin, on nourrit le chien, on sort les vidanges, on s'occupe de nos choses. Notre style de vie continue, ça semble permanent, ça semble permanent. Et beaucoup de choses, par contre, sont en train de se passer en arrière-scène et préparent des grands bouleversements. Est-ce que nous croyons réellement ce que le Christ a dit, que ce que le Christ a dit va se réaliser, que les choses vont devenir tellement graves qu'il va devoir intervenir miraculeusement pour protéger notre vie? Il ne faut pas avoir peur, bien sûr. Le Christ n'a pas dit à ses disciples, dans ces circonstances, qu'ils devraient avoir peur. Il leur a dit ce qui s'en venait pour qu'ils soient encouragés et il nous dit ce qui s'en vient pour que nous soyons encouragés. Et il y a des promesses formidables. Allons à Apocalypse 12 maintenant et voyons l'histoire de la vraie Église de Dieu. On parle ici du premier siècle. Et cela va s'appliquer jusqu'à nous aujourd'hui. Apocalypse 12 et le verset 1. L'apôtre Jean écrit: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme symbolise l'Église, la congrégation de l'Ancien Testament et l'Église du Nouveau Testament. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Référant à Jésus-Christ, verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Nous savons que Satan a essayé de détruire le Christ lorsqu'il était enfant, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et bien sûr, en ce moment, le Christ est à la droite du Père, sur le trône de l'univers, verset 6. Mais après que le Christ a quitté la terre, après sa résurrection, l'Église a continué son travail. Ses disciples ont continué à travailler, à accomplir l'œuvre qu'il leur avait confiée. Vous savez, leur vie n'a pas toujours été paisible et agréable. Verset 6. Et la femme, l'Église, s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ça décrit le temps où l'Église a fui dans les montagnes de l'Europe au Moyen Âge et où elle a été persécutée pendant plusieurs siècles. M. John Owen a écrit une brochure intéressante, L'Église de Dieu à travers les âges, qui décrit cette époque. Il dit ceci: dans le prolongement du Concile de Nicée, l'empereur Constantin et ses successeurs cherchèrent à anéantir toutes les mouvances non conformistes du christianisme. Les groupes qui refusaient de se soumettre aux enseignements et aux pratiques de l'Église établie, qui s'appelait maintenant l'Église catholique ou universelle, si vous voulez, n'était plus considérée simplement comme des hérétiques, mais comme des ennemis subversifs de l'État romain. La véritable Église, symbolisée par une femme dans Apocalypse 12, fut forcée de s'enfuir au désert pendant 1260 jours. Prophétiquement, un jour biblique symbolise souvent une année. Donc, la véritable Église devait rester cachée pendant 1260 ans à partir du Concile de Nicée. C'est ce qui s'est produit au cours de l'histoire, nous pouvons le vérifier. Une lumière scintillante continua à traverser les siècles obscurs. Sa flamme fut parfois sur le point d'être soufflée, mais elle ne s'éteignit jamais. Alors, les frères à l'époque du premier siècle ont dû être protégés, et les frères ont dû être protégés durant la période du Moyen Âge. Puis, M. Ogwin explique que Apocalypse 12 décrit ce qui va se produire dans le futur, juste devant nous. Dans la brochure anglaise intitulée « Revelation, the mystery unveiled », M. Ogwin dit ceci, Apocalypse 12, versets 7 à 12, décrit la future tentative de Satan de s'emparer du pouvoir au ciel juste avant la grande détresse. Après que Satan aura alors été jeté sur la terre, Dieu va amener la femme, sa vraie Église, à un lieu de sécurité dans le désert pour y être nourrie et protégée durant cette dernière période de 3 ans et demi. Nous pouvons lire la description de cela dans Apocalypse 12. Commençons au verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 13 maintenant. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Il s'agit d'une période donc de 3 ans et demi. Verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous voyons? 3 périodes générales de temps différentes, le premier siècle, le Moyen Âge et le temps de la fin. Dieu dit qu'il devra protéger ses serviteurs fidèles et ceux-ci devront fuir la persécution. Ça s'en vient, c'est tout proche. Ça s'est produit dans le passé, mais ça va se produire sous peu. Et il y a d'autres exemples dans les Écritures qui ont dû fuir la persécution. Voyons dans le livre de Genèse, au chapitre 19, on voit l'histoire de Lot. Genèse chapitre 19, et on va commencer à lire au verset 1. Vous vous rappelez l'histoire? Lorsque Jésus-Christ avait l'intention de détruire Sodome et Gomorre, il a envoyé des anges là. Verset 1, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Allons au verset 12 maintenant. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Voyez-vous, Lot hésitait. Il ne voulait pas réellement prendre cette décision et partir. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Vous savez, Dieu a eu beaucoup de miséricorde et de bonté. Comment il se souciait de Lot et des siens, comment il les a réconfortés. Et même alors que Lot hésitait, Dieu a manifesté beaucoup de bonté et de miséricorde. Les anges ont eu cette attitude de la part de Dieu pour Lot, sa femme et ses filles. Et ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Ce ne sont pas des choses amusantes. Leur vie était en jeu. C'est ce qui s'est produit alors que Dieu allait détruire la société autour d'eux. Et Sodome a effectivement été détruite comme Gomorre. Voilà ce qui est écrit ici, verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. On parle souvent de Lot et de son épouse et des leçons qu'on peut en tirer, surtout de la leçon concernant sa femme. Quel est l'avertissement pour nous en ce qui a trait à ce que la femme de Lot a fait? Lot a échappé, ses deux filles aussi ont échappé, mais la femme de Lot a regardé en arrière. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui manquait? On peut voir différents aspects de cette situation, de ce problème, mais on peut voir très bien qu'elle a manqué de foi. Elle a manqué de foi. Il manquait quelque chose en elle, dans le cœur ici. Pourtant, elle était en train de quitter, elle était en train de fuir, elle était en train d'appliquer l'avertissement que Dieu avait donné par ses anges, mais ça ne suffisait pas de connaître la voie pour sortir, ça ne suffisait pas de connaître la promesse de protection. Il fallait un élément nécessaire, et cet élément-là manquait en elle, la foi. Elle a manqué de foi. Frères et sœurs, dans ces temps difficiles qui viennent, est-ce que nous aurons la foi? Est-ce que nous aurons la foi suffisante pour prendre les bonnes décisions et poser les bons gestes au bon moment? Est-ce que nous marchons dans la foi aujourd'hui pour nous préparer vraiment? Est-ce que nous marchons dans la foi maintenant et agissons avec foi chaque jour de notre vie? Jusqu'à quel point marchons-nous dans la foi? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie de tous les jours, qui teinte notre façon de vivre, notre façon de penser? Est-ce que nous nous préparons à avoir plus de foi demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, pour marcher davantage dans la foi? Est-ce que nous vivons dans un état de foi, étant proche de Dieu chaque jour, nous préparant ainsi pour ce qui vient? Voyons une autre génération qui a dû fuir une autre société mauvaise. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11 et le verset 7. C'est intéressant lorsque vous commencez à regarder tous ces exemples. À plusieurs occasions, les serviteurs de Dieu ont dû faire preuve de foi et agir alors qu'ils vivaient dans une société méchante autour d'eux, une société qui était sur le point de s'écrouler. Ça a été le cas de Noé, Hébreux 11 et le verset 7. Nous lisons ceci. « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » C'est intéressant. C'est par la foi que Noé agit. Nous avons besoin de cette sorte de foi. C'est une exigence dans des temps comme ceux où Noé vivait et comme ceux où nous vivons aujourd'hui. Ce sera capital, essentiel dans l'avenir pour nous. Nous voyons ce qui va se produire. Nous le voyons déjà commencer à se produire. Nous réalisons la tendance où les choses s'en vont maintenant. Quelle sorte de foi il faut pour sauver notre peau? Certains, au cours de l'histoire, n'ont pas tenu compte des avertissements de Dieu, et certains ne tiennent pas compte du lieu de sécurité. Certains disent on doit penser seulement aux choses spirituelles. Jusqu'à un certain point, c'est vrai. On ne doit pas chercher à sauver notre peau. Ça ne doit pas être notre but premier. Et il nous faut être prêts à donner notre vie, les uns pour les autres, pour le Christ, pour ce que nous croyons. Le Christ a dit que si nous essayons de sauver notre vie, nous allons la perdre, bien sûr. Mais écoutez, lorsqu'on regarde l'ensemble des paroles du Christ, ce qu'il veut dire réellement par ces paroles, nous voyons que ce n'est pas mauvais de désirer être sauvé physiquement, d'avoir la protection de Dieu physiquement. Dieu nous l'offre, ce n'est pas pour rien. Je me rappelle, il y a un ministre qui a déjà dit, si vous prenez soin de votre caractère, Dieu va prendre soin de votre peau ou de votre vie physique. Si vous prenez soin de grandir dans le caractère de Dieu, Dieu va prendre soin de votre vie physique, de votre peau. Et ça rejoint la préoccupation du Christ. Allez à Luc chapitre 17, s'il vous plaît. Luc chapitre 17, nous voyons quelque chose de très intéressant ici. Luc chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 26. C'est le Christ qui parle encore, en parlant de l'avenir qui est juste devant nous, ce qui nous attend. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, au jour où le Christ va revenir. Qu'est-ce que le Christ dit? Il dit, « Lorsque vous regardez l'histoire de Noé, vous pouvez apprendre des choses concernant ce qui va se passer à votre époque, en parlant de nous, vous qui vivez à la dernière génération. » Verset 27, « Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit périr tous. » Autrement dit, la vie continuait comme si c'était normal, comme si elle allait continuer indéfiniment comme ça. Les gens achetaient, les gens vendaient, les gens se mariaient. Les gens faisaient une vie tout à fait normale. Et ils ne croyaient pas que ça allait changer. Les gens ne comprenaient pas que la société pouvait s'effondrer autour d'eux, même si Dieu les avait avertis. Le déluge vint et les fit périr tous. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Ce n'est pas des choses mauvaises. La vie continuait son cours normalement. Mais regardez, verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Notez bien le verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il y a un lien direct avec ce qui nous attend dans un futur très proche, et ça vient très vite. C'est un avertissement pour nous aujourd'hui, clairement. En ce jour, verset 31, que celui qui sera sur le toit et que celui qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. En d'autres termes, un jour va venir où il n'y aura plus de temps. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus. Verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Il revient sur ce point. Verset 33, notez bien, « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » Réfléchissons un peu. Est-ce que le Christ était en train de dire qu'il est mauvais de vouloir être protégé de la grande détresse, la pire époque de toute l'histoire humaine? Est-ce que le Christ était en train de dire que c'est mauvais de vouloir être protégé? Tout le contexte de ce qu'il dit ici, c'est justement de nous montrer comment être protégé en apprenant les leçons de l'époque de Noé et de Lot. Ce qu'il nous enseigne, il dit, ne soyez pas trop attachés à vos choses. Ne faites pas ce que la femme de Lot a fait. Ne cherchez pas à sauver vos choses, vos possessions, ce qui fait partie de votre vie passée. Ne regardez pas en arrière. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes disposés à abandonner tout ce que nous possédons et partir? Pouvons-nous abandonner notre vie actuelle, notre style de vie? Sommes-nous vraiment disposés aussi à abandonner notre égoïsme, nos propres opinions? Il nous faut être prêts à abandonner, dans un sens, toute notre vie. Bien sûr, toute notre vie mauvaise, mais les choses même bonnes que nous avons, que nous possédons. Si nous sommes prêts à faire tout ça, Dieu va nous protéger physiquement. 2 Pierre 2, verset 9, dit ceci, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Et Pierre a utilisé l'exemple de Lot également. C'est tellement encourageant. Dieu sait comment délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Quel encouragement! Dieu a créé les montagnes, les rivières, les fleuves, l'océan, toutes les créatures, la planète, le soleil, tout le système solaire, les galaxies, tout l'univers. Mais lorsque nous passons par des épreuves majeures, parfois nous nous disons, comment est-ce que je vais sortir de ça? Comment est-ce que je vais réussir à passer à travers cette difficulté ou ce problème ou cette épreuve? C'est tellement encourageant de lire ça. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, particulièrement à l'époque qui approche, alors que la société autour de nous va s'effondrer totalement. Nous allons vivre ça. Tout comme les Israélites ont vécu des choses semblables. Dieu sait où nous sommes, Dieu nous observe chaque jour, Dieu travaille avec nous et Dieu sait comment nous délivrer de l'épreuve. C'est comme ça que Pierre nous appelle à réfléchir et à être encouragé. Ça va prendre de la foi pour être protégé. Dans le temps qui me reste, examinons quelques points qui peuvent être des tests pour notre foi au cours des prochaines années. Voici quelques éléments signifiants. Premièrement, la première chose qui sera peut-être un test de foi pour nous, en ce qui a trait au lieu de sécurité, à quel moment devrons-nous y aller? À quel moment devrons-nous y aller, quitter ce monde? Si vous êtes dans un édifice en feu et qu'il y a une sortie de secours, ça ne prend pas beaucoup de fois pour sortir, n'est-ce pas? Et de courir à l'extérieur. Pourquoi est-ce que le fait de fuir, lorsque ça nous sera montré, va-t-il demander de la foi? Qu'est-ce qui arrive si vous ne réalisez pas que l'édifice est en feu? Peut-être que la femme de Lot pensait comme ça. Peut-être qu'elle se disait, je sais que la société est mauvaise, mais ce n'est pas mauvais à tel point. Il y a encore des choses intéressantes dans cette société-là. Il y a encore des bonnes valeurs dans cette société-là. Peut-être que son jugement à la femme de Lot était omnubilé d'une certaine façon. Elle voyait encore certaines choses intéressantes. Et ça peut être la même chose pour certaines personnes. Vous savez, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Allemagne nazie prenait de plus en plus de contrôle, certains ont vu l'écriture sur le mur et ont fui l'Allemagne nazie. D'autres n'ont rien vu, n'ont pas réalisé que l'édifice était en feu. Ça prenait de la foi, ça prenait de la compréhension pour voir les choses que d'autres ne voyaient pas. Dans Proverbes 22, verset 3, il est écrit « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples ou les insensés avancent et sont punis. » L'homme prudent voit le mal et se cache. Il y a deux sortes de gens, les gens prudents et les gens insensés. Les prudents voient d'avance. Ils étudient les Écritures sur le mur, pour ainsi dire. Ils ne regardent pas simplement ce qui est évident autour d'eux. Ils demandent le discernement pour voir ce que ça veut dire et là où les choses s'en vont. Ça, c'est la foi. Un de nos ministres aux Philippines, M. Gédéon Benitez et sa famille, et d'autres qui vivent à Mindanao, ne sont pas confus concernant à quel point notre société est dangereuse et mauvaise et à quel point nous avons besoin de la protection divine. Il y a environ 2 ans, ils étaient dans leur maison, dans une partie de Mindanao, et il y avait des rebelles islamiques qui approchaient de la ville. Et ces gens-là ne savaient pas si l'instant d'après, leur maison allait être la proie des flammes ou allait recevoir des bombes ou quoi que ce soit. D'autres aux Philippines ont vécu des choses semblables il n'y a pas si longtemps. Un de nos frères, à un moment donné, était dans les champs et il a été pris entre les tirs ennemis. Il y avait différentes factions. D'un côté, il y avait des troupes rebelles. De l'autre côté, il y avait des troupes du gouvernement. Et il était dans son champ. Et il a dû se cacher jusqu'à temps que les fusillades soient terminées. D'autres ont reçu des menaces dans d'autres situations semblables. On n'a pas à les convaincre que ce monde est mauvais, que c'est un monde dangereux. Ces frères-là, ces membres de l'Église savent que le Christ doit revenir et savent qu'ils ont besoin de la protection de Dieu. Mais vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on ne rencontre pas nous-mêmes ce genre de problème, on peut être amené à croire que ce n'est pas si mauvais après tout, que les choses vont normalement, que ça va continuer ainsi, qu'il n'y a pas tellement de danger. Voyez-vous, c'est un danger. si nous voyons les choses de cette façon-là, nos yeux ne sont pas ouverts. 1 Thessaloniciens 5, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 5 et le verset 1, nous lisons ceci. Quelque chose d'intéressant que l'apôtre Paul a écrit. Il dit ceci, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, c'est-à-dire sérieux. » Quelle prophétie incroyable de la part de l'apôtre Paul. Vous savez, même si les choses vont de plus en plus mal, il pourrait y avoir des périodes de paix relative, de coopération, qui semble intéressante, même sur le plan international, même dans nos pays. Mais la destruction sera à la porte et va arriver soudainement. Les gens de Dieu, les serviteurs de Dieu, doivent être prudents et ne doivent pas être insensés s'ils regardent les choses avec discernement, avec compréhension, avec foi. S'ils sont en train d'obéir à Dieu et de développer son caractère, ils auront la foi. Satan veut particulièrement que nos jeunes gens soient distraits, soient détournés, alors que nous approchons des temps difficiles. Nos jeunes gens sont la prochaine génération, nos jeunes garçons, nos jeunes filles dans l'Église. Et le Christ va revenir bientôt dans une période de temps courte. Et nos jeunes gens vont être ceux qui vont avoir vécu dans deux situations, dans le monde actuel et dans le monde à venir. Et ils pourront aller au lieu de sécurité. Ils seront les leaders physiques dans le monde à venir. Ils seront des exemples dans cette société nouvelle. Ils peuvent être la génération de dirigeants dans le monde à venir. Ils vont faire le pont entre l'ancien monde et le nouveau monde. C'est formidable comme destinée. Vous savez, nous respectons beaucoup les soldats qui ont donné leur vie lors de la Deuxième Guerre mondiale pour protéger la liberté et tout ça, et nous les honorons, bien sûr. Mais vous savez, il y aura une plus grande génération que celle de ces hommes-là. Celle de nos jeunes gens, nos jeunes hommes et nos jeunes femmes qui ont de la vision maintenant, qui sont fidèles à Dieu, qui voient les choses pour ce qu'elles sont, qui rejettent la société de Satan et qui s'efforcent de vivre selon les voies de Dieu et qui vont être protégés dans le lieu de sécurité durant la grande détresse. Et ils seront des exemples dans le monde à venir, quelque chose de formidable. Voilà une génération importante que Dieu considère. Jeunes gens, ne vous laissez pas être détournés et ou déviés par les distractions que Satan veut vous apporter. Satan veut vous offrir plein de choses dans le monde actuel. Mais gardez vos yeux sur ce qui s'en vient. Sachez la destruction du monde qui s'en vient maintenant. Surveillez les signes des temps. Il y a une occasion merveilleuse qui vous attend. Mais il faut que vous ayez, vous également, de la foi, vous les jeunes. Luc chapitre 21 maintenant et le verset 28. Luc 21 et le verset 28. C'est un avertissement pour nous tous, mais pour vous les jeunes en particulier également. Christ dit encore une fois, « Quand ces choses commenceront à arriver, les signes qui signalent le retour de Christ, ces événements-là avancent maintenant. Il dit, quand vous allez voir ces choses arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Autrement dit, il parle de cette génération qui va voir toutes ces choses-là arriver, qui vont comprendre que ces événements-là tombent en place Vous savez, il y a beaucoup de choses déjà qui se sont produites. Le mur de Berlin est tombé. L'Allemagne est de nouveau unie et forme une seule nation. La Russie ne domine plus l'Europe de l'Est. Ces choses-là se sont produites. L'Union européenne se construit d'une façon qui n'était pas prévisible il y a seulement quelques années. Voilà les choses qu'on peut voir. La prophétie l'annonçait et ça s'est réalisé. Et les autres choses annoncées se réalisent sous nos yeux. Je vous le dis, verset 32, en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout, vivant devant le Fils de l'homme. Alors, frères et sœurs, si nous avons la foi, nous allons réaliser que l'horaire de Dieu, l'agenda de Dieu est parfait. Et Dieu voulant, nous allons être protégés, et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire pour nous. Plus nous croissons dans la foi, plus nous voyons le monde pour ce qu'il est, et plus nous comprenons ce qui s'en vient, et plus nous comprenons qu'il nous faut nous détourner de ce monde et de ses influences mauvaises et vivre autrement. Est-ce que nous le réalisons? Est-ce que nous nous détournons du monde? Est-ce que nous rejetons ces soi-disant valeurs? Quel autre point peut être un test pour nous? Pas seulement quand partir, mais un autre test de notre foi, ce sera où aller. La Bible ne dit pas de façon explicite où sera le lieu de sécurité. Ça dit qu'il y aura un lieu de sécurité. Et là aussi, ça va demander de la foi pour accepter d'abord à quel moment partir et deuxièmement, où aller. La Bible nous donne certaines indications. La Bible présente certaines allusions concernant où peut être le lieu de sécurité. La Bible ne dit pas explicitement où sera le lieu de sécurité, mais si les références bibliques sont justes, ça pourra être au sud de la Jordanie, à Petra, par exemple. Allons dans Daniel 11, Daniel chapitre 11 et le verset 40. Ça décrit les choses à se produire juste au temps de la fin, juste avant le retour de Christ. Verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, mais Édom et Moab et les principaux enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Alors, c'est intéressant de voir que Édom et Moab seront protégés de la puissance de la bête. C'est la Jordanie. Pourquoi est-ce que ces régions seront protégées? Peut-être parce que le peuple de Dieu sera là au lieu de sécurité. Allons maintenant à Ésaïe. Ésaïe, maintenant le chapitre 16, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 1. Ici, nous voyons une autre référence possible au lieu de sécurité. « Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla par le désert. » Et Séla est un autre mot pour désigner Petra. Verset 3. « Donne conseil, fais justice. Couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit. Ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur. » car l'oppression cessera. C'est intéressant, une prophétie de Dieu qui concerne le petit peuple de Dieu rejeté par le monde, qui sera dans la région de Moab, la même région dont je viens de vous parler. Ésaïe, chapitre 33, maintenant, Ésaïe, chapitre 33. Nous allons lire à partir du verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies, les hypocrites. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. De l'eau lui sera donnée. Petra veut dire rocher. Alors, la Bible ne dit pas directement quel sera le lieu de sécurité, mais l'endroit le plus vraisemblable possible pourrait être Petra. Nous ne le savons pas précisément, bien sûr, mais ça prend de la foi. Ça va prendre de la foi. Vous savez, les Israélites ont vécu une expérience semblable au temps de l'Exode. Ils ne savaient pas comment ils allaient se rendre à la terre promise. Allons à Exode, s'il vous plaît. Exode, chapitre 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. » Les Israélites réalisaient la même chose que Pharaon réalisait aussi. Ils savaient qu'ils étaient coincés. Alors, ils étaient dans cette situation vraiment difficile. Ils étaient piégés, pour ainsi dire. Verset 4, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon, celui de ses serviteurs, furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? » Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Verset 10, « Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent, « À Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » On peut regarder l'histoire, cette histoire, et on peut dire, ah, les Israélites étaient charnels, avaient une courte vue. Ils avaient simplement à faire confiance à Moïse et à croire à ce que Dieu avait dit. Ils avaient eu la colonne de nuée qui les avait dirigés. Ils auraient dû croire et être patients et attendre. Mais écoutez, il y a un parallèle qu'on peut faire avec nous. Nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu nous montre les choses à venir. Est-ce que nous allons lui faire confiance plus qu'eux lui ont fait confiance à l'époque? Rappelez-vous, Apocalypse 12, ça parle d'un temps où l'Église va être en fuite de la présence du serpent. Verset 15, « De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve, mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. » Le fleuve représente une armée dans la prophétie. Les Israélites étaient coincés devant la mer Rouge et toute l'armée de Pharaon était prête à les attaquer. Il y a vraiment une ressemblance frappante avec ce qui va se passer dans notre futur en ce qui nous concerne. Un jour, peut-être qu'on regardera l'histoire avec un œil plus compassionné envers les Israélites qui ont vécu ça quand nous allons vivre des choses semblables à celles qu'ils ont vécues. La parole de Dieu est certaine. Ses promesses sont assurées. Il nous promet la protection dans le futur, mais il nous faudra avoir de la foi. Est-ce que nous aurons la foi nécessaire? Est-ce que nous avons aujourd'hui la foi? Est-ce que nous vivons maintenant notre vie selon toute parole de Dieu avec foi, en nous efforçant le plus possible de changer totalement et de développer le caractère que Dieu veut nous voir développer? Seul vous-même pouvez répondre à ça. Est-ce que vous vivez réellement par la foi? Est-ce que vous laissez Dieu vous guider, guider tous les aspects de votre vie? Si nous faisons ça, nous aurons l'attitude nécessaire pour suivre le Christ quand les temps deviendront difficiles et aller au lieu de sécurité. Un troisième point qui pourra être un test en termes de place de sécurité, qui suivre? Qui suivre? Ça a un rapport avec nous aussi. Et ça devient vraiment intéressant de regarder ça. De quelle façon Dieu communique l'information à son Église? Comment Dieu va-t-il communiquer l'information concernant le lieu de sécurité? Quand partir? Où aller? Est-ce qu'il va donner une vision simultanée à tout le monde, à tous ses enfants? Il pourrait le faire, mais est-ce que c'est ce qui risque d'arriver? Non, c'est pas comme ça. Dieu travaille à travers des leaders humains. On le voit dans toute l'histoire de la Bible. Bien sûr, il y a des choses qui vont se produire, on sait, et on va le réaliser nous-mêmes. Quand on regarde dans Daniel chapitre 12, par exemple, Daniel chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 10. Il y a des signes qui vont se réaliser, qui vont nous montrer que le temps d'aller au lieu de sécurité approche, bien sûr. Daniel 12 et le verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, les sages, comprendront. Voyez-vous le contraste encore entre ceux qui sont prudents, ceux qui savent ce qui se passe, ceux qui sont proches de Dieu, ceux qui s'efforcent de vivre selon Dieu et qui vont être protégés, et ceux qui sont insensés, qui ne prêtent pas attention aux avertissements et qui ne se préparent pas, qui ne développent pas leur foi. Verset 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Il y a des choses qui doivent arriver d'abord. Les sacrifices quotidiens seront arrêtés, mais il faudra qu'ils soient d'abord initiés, il faudra qu'ils reprennent. Et on verra l'abomination de la désolation être établie en lieu saint. Ça, on va voir ces choses-là. Mais même à cela, il faudra que nous ayons confiance aux leaders que Dieu utilise. Est-ce que nous croyons réellement que Dieu travaille à travers ses leaders concernant les choses que nous ne pouvons pas découvrir par nous-mêmes? Nous vivons actuellement à une époque spéciale. Il y a des événements qui se sont produits dans l'Église au cours des dernière dizaine d'années, et plusieurs ont perdu confiance dans le leadership à cause de certains leaders qui ont détourné l'Église, et ça affecte les gens. Et même ça affecte les gens de différentes façons. Certains ne veulent plus assister à l'Église ou assistent ailleurs. Vous savez, on peut commencer à se dire, ce n'est pas important de suivre les leaders de l'Église et on peut devenir parfois cynique et blasé un peu. Certains ont souffert de ça et certains souffrent encore de ça. Nous allons être confrontés avec la tribulation, la plus grande période désastreuse de l'histoire humaine, et l'occasion nous sera donnée d'aller à un lieu de sécurité. À qui allons-nous faire confiance en termes de leaders? Bien sûr, les leaders de l'Église ne sont pas parfaits, mais allons-nous être capables de discerner avec qui Dieu travaille et est-ce que nous allons être capables de les suivre alors qu'eux suivent le Christ? Vous savez, ça peut être d'une importance capitale, ça va être d'une importance capitale, le discernement, pour savoir qui nous allons suivre. Il nous faut avoir la foi nécessaire. À ce point critique dans l'histoire, il faudra être solide. Il nous faut maintenant avoir la foi, nous fier à Dieu et nous fier aux leaders que Dieu met en place. Ça ne veut pas dire de les suivre de façon aveugle. Il faut suivre ceux qui enseignent vraiment ce que la Bible dit, ceux qui sont fidèles, même s'ils ne sont pas parfaits, ceux qui annoncent vraiment la Bible, ceux qui prêchent la vérité, ceux qui annoncent ce qui vient et qui accomplissent la mission que le Christ a donnée à l'Église. En dernière analyse, nous allons devoir discerner à travers qui Dieu travaille Chacun d'entre nous doit vérifier son propre cœur. Quelle est mon attitude face au gouvernement de Dieu et face aux leaders qui sont au-dessus de moi? Les leaders que Dieu a placés au-dessus de nous. Ça peut sembler une question sans importance maintenant, mais ça va devenir d'une importance majeure à ce moment-là. Qui allons-nous suivre? Ça nous apporte au prochain défi que nous aurons à rencontrer, et ce sera peut-être le plus grand défi en ce qui nous concerne, nous qui vivons dans une société opulente. Partir ou non? Partir ou non? On peut être d'accord que ce sera le bon moment, et on peut comprendre avec qui Dieu travaille et qui nous devons suivre. Mais vous savez, quand le moment va venir de partir, ça pourra être trop difficile pour certains d'abandonner ce qu'ils ont. Allons à Matthieu chapitre 19, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 16. Justement, parce que nous vivons dans une société opulente où tout semble bien aller, mettez-vous dans les souliers de ce jeune homme riche à l'époque. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Question intéressante. C'est ce que nous cherchons. Nous voulons avoir la vie éternelle et nous voulons savoir quoi faire. Qu'est-ce qui est exigé pour que je sois béni, pour que j'aie la vie éternelle, pour que j'aie même les bénédictions de Dieu maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je dois faire pour être protégé dans le lieu de sécurité? Regardez le verset 17. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. » Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Intéressant comme déclaration. Lequel, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Qu'est-ce qu'il me manque? Nous, dans l'Église de Dieu, nous faisons ces choses-là. Nous sommes des gens qui observent les commandements et nous prenons ça à cœur. Nous nous efforçons de faire ce que Dieu dit. Nous faisons la même chose que le jeune homme disait faire. Mais regardez au verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Peut-être que lorsque nous serons rendus au dernier test, Dieu va nous demander d'abandonner toute chose pour être protégé de la pire période et des pires calamités de toute l'histoire humaine. Il y aura ce grand test à passer, d'abandonner toute chose. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Parfois, on regarde ça, puis on dit, « Bon, moi, je ne ferais jamais ça, bien sûr. » Mais heureusement, je n'ai pas de grandes possessions, donc le test n'est pas si grand que ça. Écoutez, regardez, nous sommes les plus riches de la société aujourd'hui encore, même s'il y a des problèmes. Si nous nous comparons à tous ceux qui ont vécu dans l'histoire, et si nous nous comparons à des milliards de gens actuellement qui vivent dans une grande pauvreté dans le monde, la plupart d'entre nous vivons dans l'opulence, même si nous pensons ne pas avoir beaucoup dans certains cas. Nous sommes riches. Au-delà de tout ce qu'on peut espérer, par rapport aux gens qui ont vécu avant nous et par rapport à beaucoup de pauvres dans le monde. Le Christ a dit à ce jeune homme-là, il faut être prêt à tout abandonner si vous voulez avoir les bénédictions que je veux vous donner. Et le jeune homme est parti tout triste. Il ne pouvait pas le faire. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous avons la foi pour abandonner toute chose s'il le faut? On ne doit pas prendre pour acquis que ce sera facile. Regardez ce que le Christ dit. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » C'est difficile pour quelqu'un qui a des grands biens d'abandonner son bien. Et, frères et sœurs, je vous le rappelle, selon tous les standards, standards de l'histoire et standards des gens dans le monde en général, nous sommes riches. Verset 24, « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il n'a pas dit « c'est impossible », mais « c'est difficile, beaucoup plus difficile ». Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » De nous-mêmes, nous ne pouvons pas être à la hauteur de ce que le Christ demande, mais par la puissance de Dieu, nous pouvons y arriver, nous pouvons faire toutes choses. Il y a quelques années, nous avons publié un article dans l'Église universelle de Dieu qui était intitulé « Serez-vous protégés? » Ça parlait du lieu de sécurité. Comment ce sera? Et les choix que nous aurons à faire. Et je cite « Comment allons-nous réagir si cette merveilleuse place de sécurité préparée spécialement pour nous et que nous avions imaginée confortable s'avère plutôt un endroit désolé et désertique? Allons-nous savoir avec foi que Dieu est avec nous, même si nous ne voyons pas de colonne de feu? Ou allons-nous dire « Pourquoi nous as-tu amenés ici, dans ce lieu aride, sans verdure, froid en hiver et très chaud en été, rempli de pierres? » Devrons-nous vivre dans des cavernes rocheuses, sans meubles, sans eau, où il n'y a rien à manger? N'est-ce pas une situation semblable à celle des anciens Israélites? Un autre article traitant du même sujet déclare « Où que se trouve ce lieu, sera-t-il un lieu de sécurité absolue? Il sera certes protégé de Satan, mais ce ne sera pas encore le royaume de Dieu. Ceux qui seront là n'auront pas encore persévéré jusqu'à la fin. Ils n'auront pas atteint le but final. Ils seront encore capables de pécher et susceptibles de tomber, d'être emportés. Pour certains, ce sera un endroit dangereux où ils risqueront de perdre leur salut. Dans ce lieu, il faudra vivre ensemble, dans la paix et l'harmonie, 24 heures par jour, pendant 1260 jours. Certains membres de l'Église ont de la difficulté à vivre en harmonie avec d'autres membres, même aujourd'hui, pour une courte période de temps. » Ça donne à réfléchir, vous savez. Certains couples ont de la difficulté à bien s'entendre pendant un seul jour, alors que dire de 1260 jours? Manifestement, certains devront changer et vaincre beaucoup de choses pour passer à travers une telle épreuve. Si le lieu de sécurité est Petra, ce ne sera certainement pas le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu sera établi seulement 3 ans et demi plus tard. Petra ne serait pas le paradis. Ce sera sans doute la plus grande épreuve de toutes pour plusieurs parmi le peuple de Dieu. Quelque chose qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Vous savez, les Israélites, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils se sont plaints parce qu'ils n'avaient pas de melon, d'ail, et ainsi de suite. Mes frères et sœurs, pensons-y un instant. Nous sommes habitués à tellement de richesses, tellement de variétés, même en termes de nourriture. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous aurons la foi nécessaire à ce moment-là? Est-ce que nous avons la bonne perspective maintenant qui va nous préparer à avoir la foi nécessaire pour être au lieu de sécurité dans un avenir rapproché? Ces choses-là vont se produire. Et ça va être enthousiasmant lorsque nous serons dans le lieu de sécurité de savoir que 3 ans et demi après notre arrivée au lieu de sécurité, le Christ va mettre les pieds sur le mont des Oliviers et établir le gouvernement de Dieu sur la terre. Quelque chose que nous attendons depuis longtemps, depuis des années, depuis des dizaines d'années, pour certains depuis toujours, parce qu'ils ont grandi dans l'Église. Quelle chose extraordinaire ce sera. Quel temps tellement enthousiasmant ce sera. Il faut que nous ayons sa protection. Nous avons besoin de ses encouragements. Et pour y arriver, ça prendra de la foi. Matthieu, chapitre 7 et le verset 24. Matthieu, chapitre 7 et le verset 24. Le Christ nous dit de bâtir notre maison sur le rocher, non pas sur le sable. Verset 24. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Voilà, celui qui écoute la parole et la met en pratique. Où est notre place ultime de sécurité? C'est en Jésus-Christ. C'est lui notre rocher. Il est notre protecteur. Il est notre protection. Ce n'est pas d'abord un lieu, c'est en lui que nous sommes protégés. Lui va nous amener à un lieu de sécurité. Ce sera sa volonté et ce sera par sa force, mais c'est lui qui est notre protection. Nous ne dépendons pas de choses physiques pour notre protection. Il nous faut bâtir notre maison sur lui, sur le Christ, et le suivre. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il n'y a pas de tempête plus violente que la grande détresse qui approche. Et le Christ nous en avertit longtemps d'avance pour que nous nous préparions, pour que nous soyons prêts, pour que nous soyons ces gens prudents qui se préparent, pour que nous ne soyons pas ces insensés qui s'égarent, qui négligent. Il nous faut avoir la bonne vision pour construire notre maison adéquatement. Verset 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » En dernière analyse, toutes nos possessions, nos maisons, nos biens, nos voitures, quoi que ce soit, ça semble tellement réel, ça semble tellement important, mais regardez, ça va tout disparaître dans la grande détresse. Nous voyons l'écriture sur le mur. Notre société, le style de vie actuel va chuter, va disparaître. Plusieurs commentateurs, même non religieux, comprennent ces choses-là et commencent à le dire, à l'écrire dans les articles de journaux. Il ne faut pas avoir peur, bien sûr, mais il nous faut prendre les mesures disponibles et il nous faut prendre au sérieux les avertissements de Christ et nous préparer. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Quelle occasion unique nous avons de connaître la vérité en ce qui concerne ce qui s'en vient et de savoir comment être protégé de la pire époque de calamité de l'histoire de l'humanité, d'être sage et non pas insensé. Dieu nous donne la possibilité de distinguer entre ce qui est temporaire et ce qui est permanent. Il nous faut nous préparer. Nous voyons le Christ travailler dans nos leaders. Nous suivons leur exemple, comme eux suivent l'exemple du Christ. Mais il nous faut avoir la foi, il nous faut avoir confiance. Et nous allons voir les choses se développer. Ne mettons pas notre confiance dans nos possessions. Soyons disposés à les abandonner quand le temps viendra. Aimons-nous les uns les autres. Encourageons-nous, comme le Christ nous commande de faire. Proverbe 14, verset 26, dit ceci. « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants auront un lieu de sécurité. » Dans le texte original, c'est ce qui est écrit. « Les enfants de Dieu auront un lieu de sécurité. » Je le désire cela, je désire être au lieu de sécurité. Nous aurons besoin de cette protection. Il nous faut avoir foi en Dieu, à ce qu'il dit. Matthieu, chapitre 19, en terminant maintenant, Matthieu, chapitre 19, voici ce que les enfants de Dieu vont recevoir pour avoir abandonné tout. Nous allons avoir la protection de Dieu, bien sûr, mais il y a plus que cela. Nous allons recevoir plus que ça. Matthieu 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, en parlant du Christ. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra au centuple et héritera la vie éternelle. » Frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout le réconfort et tous les encouragements qu'il nous donne, alors que nous envisageons les temps sombres et dangereux qui s'en viennent. Il nous faut avoir la foi nécessaire pour recevoir, à ce moment-là, la protection du Tout-Puissant. Remercions Dieu pour ses merveilleuses et encourageantes promesses, même au cours des jours sombres qui approchent. assurons-nous de pratiquer et de développer la foi nécessaire maintenant afin de nous tenir prêts.